Le grand problème qu'on a avec l'art, c'est que les gens n'y connaissent rien, sont complexés et pensent qu'il faut s'agenouiller. Et si on ne s'agenouille pas, on est juste des cons et des béotiens qui n'ont rien compris. Et moi, j'essaye de rendre les gens adultes de ce point de vue-là.
L'histoire de la peinture en moins de 2 heures, c'est ce que proposait au théâtre le critique d'art Hector Obalk que l'on vient d'entendre. Notre invité, lui, propose ce qu'il y a de plus beau au monde en 52 œuvres et en moins de 500 pages. Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce grand roman, grand par la taille et par le phénomène d'édition qu'il est, Les yeux de Mona, dans lequel vous racontez le projet ambitieux d'un grand-père qui veut faire entrer le monde de l'art dans les yeux de sa petite fille, des yeux qui, bientôt peut-être, ne fonctionneront plus puisque du haut de ses 10 ans seulement, Mona commence à perdre la vue. Thomas Schlesser, est-ce que vous savez, vous, ce que vous aimeriez voir absolument si on vous annonçait que vous alliez devenir aveugle ?
Tellement de choses. Je crois que, me concernant, ce serait surtout les miracles de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Vous savez, dans le livre, il y a un moment, il y a une leçon autour de Vermeer, l'infiniment petit est infiniment grand. Et c'est vrai que dans ces deux abîmes, à la fois si proches et si lointains, il y a des merveilles visuelles qui ont fréquemment inspiré les artistes. Et voilà, de voir un atome au plus près ou une galaxie vraiment très, très, très loin, bah, c'est merveilleux et j'emporterai volontiers ça dans ma mémoire. Oui.
C'est un vaste projet. Et vous prenez à travers votre plume le lecteur par la main dans ce livre, comme le papy bienveillant de votre roman, Henri, en grand amoureux de l'histoire de l'art. En quelque sorte, vous emmenez le lecteur au musée, vous faites venir le musée à lui, plus exactement. Est-ce que vous trouvez ces lieux intimidants pour le commun des mortels ?
Ils le sont, bien sûr, mais je vais vous dire une chose. Pour parler très fréquemment avec des directeurs de musées, des conservateurs, des guides, tout est fait pour que ces sanctuaires de la beauté soient le plus accessibles possible. Maintenant, c'est vrai, cela reste des lieux dans lesquels règne une forme de gravité, de sérieux, mais tout le monde y est le bienvenu. Et en tout cas, les acteurs de la culture que je connais font tout pour éviter que quiconque ne se sente exclu. Donc, c'est une rencontre qui a toutes les chances, normalement, de pouvoir aboutir.
Alors, dans chaque chapitre de ce roman, Les yeux de Mona, c'est un nouveau mercredi après-midi qu'on passe avec Mona et son grand-père qui vont contempler une œuvre, une seule, alors que... En tout cas, c'est comme ça que moi je m'y prends. Quand on se rend au musée, on a tendance à déambuler, à vouloir engloutir un maximum de tableaux, à maximiser le temps qu'on va passer là, à en prendre plein la vue. Est-ce que c'est une mauvaise façon de visiter un musée ?
Il n'y a aucune mauvaise façon de visiter un musée. Je fais partie de ceux qui refusent à tout prix la culpabilisation dans les modalités de perception. Bon, ça peut être avec un portable à la main, ça peut être comme dans Bande à part de Jean-Luc Godard en courant dans les grandes galeries du Louvre. Il n'y a aucune mauvaise manière. Maintenant, chacun a la sienne, et si moi je devais en défendre une, ce serait bien évidemment plutôt avec l'idée de prendre du temps, de s'impliquer dans une œuvre avant de se l'expliquer, donc de ralentir le temps, c'est vrai. Mais avant d'arriver à cette qualité d'observation, je crois que toutes les expériences de l'œuvre sont possibles et que, au fond, bah, du moment qu'on commence à faire un peu l'effort d'aller se confronter à ces beautés qui ne sont pas forcément toujours d'un accès évident, eh bien, le chemin est ouvert.
Et ces œuvres se suivent de façon chronologique dans votre roman et les premières visites se déroulent au Louvre, là où se trouve le portrait le plus célèbre du monde.
Et ils marchèrent main dans la main jusqu'à la plus fameuse salle du palais, vers laquelle convergeaient tant de touristes hagards en quête d'une émotion que, généralement, ils ne trouvaient pas, faute d'une clé de lecture vraiment efficace. Henri y avait réfléchi. Il savait que devant ce tableau célébrissime, reproduit à des millions d'exemplaires, l'attente était chaque fois énorme et la déception proportionnée. Mais pourquoi donc, se demandait-on sous le coup de la frustration, est-ce la plus connue des œuvres d'art, la plus prisée, la plus admirée ? Qu'est-ce donc qui la rend inaccessible à ma sensibilité ? Et le soufflet retombait. Lui, Henri, en amateur passionné, savait tout de la Joconde et de son histoire tumultueuse. Il savait qu'elle avait d'abord été commandée par Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes florentin, à Léonard de Vinci en 1503. Mais que Léonard ne livra jamais le portrait de son épouse, Lisa Gherardini, d'où le surnom de Madonna Lisa et son abréviation en Mona Lisa, qu'il jugeait insuffisamment achevé. Il savait que le tableau accompagna son auteur en France, lorsque le roi François Ier l'invita à finir ses jours au Clos Lucé. Il savait que longtemps, l'œuvre fut ni plus ni moins estimée que les autres œuvres de Vinci et qu'elle ne prit sa pleine dimension légendaire qu'en 1911. Cette année-là, Vincenzo Perugia, un vitrier du Louvre, s'étant laissé enfermer un jour de clôture, décrocha le panneau de peuplier de 77 cm sur 53, le glissa sous ses vêtements et rentra avec lui, chez lui, en Italie. Henri avait également compulsé, non sans un certain agacement, toutes les hypothèses les plus folles au sujet de cette effigie. On la soupçonna d'être un visage écran derrière lequel se dissimulait la monstrueuse méduse, ou d'être un homme, et pourquoi pas Vinci lui-même travesti. On prétendait en outre que le tableau présenté sous une épaisse vitre, résistant aux coups de feu, n'était qu'un leurre, une simple copie de l'original conservée dans les réserves du musée. Il fallait pouvoir se départir de cette hystérie et Henri voulait que Mona prît le temps de regarder la merveille de Léonard sans penser à rien d'autre qu'à ce qu'elle avait devant les yeux.
Thomas Schlesser, qu'est-ce que vous lui trouvez, vous, à la Joconde ?
Je lui trouve tout. Je crois que c'est important de le dire, comme c'est un tableau dont l'accès est devenu difficile à cause de la somme de représentation qu'il y en a dans le monde, c'est un tableau dont le charme s'est un peu dilué. Mais c'est le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord cette espèce de tension extraordinaire entre un personnage, une femme, avec ce sourire en effet qui est parfait, si juste, et un arrière-plan inquiétant. Cet arrière-plan qui est quasiment limite du fantastique et dans lequel on sent toutes les vibrations du monde. Et puis c'est une œuvre assez, c'est une œuvre très très étonnante parce que dès le 19e siècle, on avait bien compris que les vernis ayant jauni, eh bien, il s'en dégageait quelque chose de mélancolique qu'en restaurant, on perdrait. Autrement dit, la Joconde, c'est l'exemple même d'un objet dans l'histoire. C'est une œuvre qui a eu un vécu. Et ce vécu participe, en effet, à la légende du tableau. Et ça, c'est très important, parce que ça vient lutter contre une sorte de lieu commun qui voudrait que, au fond, les œuvres d'art soient des absolus hors sol, qui marcheraient en tout lieu et en tout temps, qui persisteraient dans leur être, identiques à elles-mêmes. Non, ce sont des objets avec des contextes, avec des points de vue, avec leur propre évolution matérielle. C'est une œuvre fascinante, passionnante et sublime.
On va en reparler dans quelques instants, mais avant, direction ailleurs, au Portugal. Ailleurs, à Lisbonne, au Portugal, avec vous, Pascal Sanchez. Bom dia.
Bom dia.
Vous coordonnez les actions de la Festa da Francofonia, la fête de la francophonie au Portugal, qui s'étale sur tout le mois de mars et même un peu après. Ça peut paraître surprenant d'ailleurs dans un pays lusophone. Quel rapport est-ce que les Portugais ont avec la langue française ?
En effet, c'est assez surprenant pour qui arrive au Portugal, mais le Festival de la francophonie est un rendez-vous important ici, car il s'appuie sur une véritable francophilie et francophonie. Il y a vraiment, on évalue à 25% la part francophone de la population portugaise, ce qui place de fait ce pays en tête des pays ayant le plus grand nombre de francophones en Europe, en dehors bien sûr des pays où le français a le statut de langue officielle, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
Alors, au programme de cette fête de la francophonie, on va donc célébrer la langue française à travers la musique, les arts visuels, mais aussi la littérature. Et parmi les auteurs que vous célébrez, il y a notamment la poétesse luxembourgeoise Anise Koltz, décédée il y a tout juste un an. Vous lui rendez hommage d'ailleurs en lançant son anthologie traduite en portugais intitulée « Une mort passagère ». La mort qui est d'ailleurs un thème récurrent dans ses écrits. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, touche les lecteurs portugais, à votre avis ?
Je pense que ce qui rend aujourd'hui cette voix unique, finalement, c'est parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question de la langue. Vous savez qu'elle a commencé d'ailleurs son œuvre en allemand, en utilisant la langue allemande, qui est sa langue maternelle, et qu'ensuite, elle s'est progressivement tournée vers le français, et elle a obtenu en 2018 le prix Goncourt de la poésie. C'est quelqu'un qui a toujours mis en avant la richesse de la langue et le plurilinguisme. Et ça, c'est quelque chose auquel les Portugais sont particulièrement attachés. Et puis, c'est quelqu'un qui est aussi très inspiré, je dirais, par tout ce qui touche à l'introspection, à l'autobiographie. Et ça, c'est un peu la ligne que nous avons souhaité retenir cette année pour mettre en avant les auteurs de littérature ou la littérature en général que nous valorisons dans le cadre de cette fête de la francophonie.
Effectivement, le point commun entre les auteurs et les autrices que vous invitez, ce sont leurs écrits autobiographiques. On va retrouver par exemple le dessinateur et scénariste français d'origine arménienne Charles Berberian, qui raconte lui son enfance, mais aussi le Marocain Abdelataya, qui emporte le lecteur dans les tourments de sa vie amoureuse et sexuelle. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces auteurs ?
Comme toujours, dans ce genre d'aventure, ce sont des rencontres. Rencontres qui, avec l'ensemble du groupe des pays francophones ici, mais aussi toutes les associations francophones qui sont très actives au Portugal. Et petit à petit, on arrive à construire quelque chose qui, je crois, cette année particulièrement fait sens.
Alors, le rendez-vous est pris donc du 7 mars au 10 avril pour la fête de la francophonie, l'édition 2024, qui se tient donc dans plusieurs villes du Portugal. Merci beaucoup, Pascal Sanchez.
Avec plaisir. À bientôt.
Où partait l'aurore dans ses bagueries, dans ses eaux bleues? S'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras. Deux pas pour le bal, trois sur le côté. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire. Puis le reste, on nous s'attourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. Thank you.
De beaux dimanches, Marion Rampal et Bertrand Belin dans De Vive Voix sur RFI, avec aujourd'hui Thomas Schlesser, historien de l'art et romancier, qui signe Les yeux de Mona, un voyage au musée, au pluriel, à la découverte de 52 œuvres, comme 52 indispensables ou 52 façons de voir le monde, avant que la petite Mona, 10 ans, ne perde la vue. Et c'est à travers la voix d'Henri...
Ne perde la vue, peut-être.
Peut-être, ne perde la vue,
l'argument
peut-être.
Du roman, c'est quand même qu'on ne le sait pas jusqu'au bout. Et qu'au cas où ce serait cette tragédie qui gagnerait
qui
la partie, voilà,
qu'elle ait pu découvrir,
elle partirait avec en effet ses 52 œuvres dans sa mémoire.
Et donc c'est à travers la voix d'Henri, son grand-père, que le lecteur reçoit chaque fois une sorte de petit cours d'histoire de l'art en compagnie de Mona. Henri, c'est un grand-père qui a un charisme fou et une allure impressionnante, fin connaisseur donc de l'histoire de l'art, comme vous, et en particulier de Gustave Courbet, dit-il, comme vous. Quelle dose de Thomas Schlesser est-ce que vous avez mis dans ce personnage ?
C'est pas du tout un roman autobiographique, mais il y a beaucoup des sensations de mon enfance dans ce roman. Je peux pas dire... Évidemment, j'aimerais bien devenir ce personnage de Henri, ce grand-père merveilleux, à la fois austère avec à peu près tout le monde, mais fantasque avec sa petite-fille quand j'aurai 80 ans. Mais pour le moment, je les ai pas. Et je me reconnais aussi beaucoup dans la naïveté, la spontanéité, l'émotion de Mona. Je dirais plutôt que dans le dialogue qu'il y a entre les deux, et dans cette espèce de communication permanente entre intuition et science que constitue la conversation Mona-Henri, il y a chacun de nos cerveaux devant une œuvre d'art, voilà, y compris le mien.
Au-delà d'un roman d'initiation artistique, comme vous venez de le souligner, c'est aussi le récit d'une transmission entre un grand-père et sa petite-fille. Vous avez été marqué, vous-même, par une relation comme celle de Mona et d'Henri ?
Moi, j'ai adoré la génération de mes grands-parents. J'ai été élevé en partie par ma grand-mère maternelle, qui ne ressemble absolument pas au personnage qu'il y a dans le livre. Mais en effet, dans le lien que j'avais avec mes grands-parents, j'ai compris qu'il y avait une générosité, une liberté, une forme de largesse qu'il n'y avait pas forcément avec mes parents, que j'aimais beaucoup aussi, enfin que j'aime d'ailleurs toujours beaucoup, c'est pas le souci. Mais entre parents et enfants, il y a souvent une pression réciproque qu'il n'y a pas entre enfants et grands-parents. Bah, tout simplement parce qu'il toutes les données matérielles du quotidien, l'école, etc., etc. Et donc, ça permet d'inventer des relations qui sont, je trouve, assez géniales.
Il y a une transmission qui a lieu, vous le racontez très bien, par la langue également. Le vocabulaire d'adulte affûté, la recherche du mot juste d'Henri, confronté au lexique tout neuf, si j'ose dire, de sa petite fille de 10 ans, et elle qui est ravie qu'on lui parle en adulte.
C'est un jeu entre eux. C'est un jeu sérieux, mais c'est un jeu entre eux. En fait, Henri parle à Mona en permanence comme s'il s'agissait d'une adulte. Et évidemment qu'il y a des moments où Mona ne comprend pas. Mais il se dit que ce sont comme des petites graines qui seront fertiles pour l'avenir. Et quand Mona, elle, a des réactions un peu intuitives ou naïves, Henri fait toujours l'effort de la prendre au sérieux pour qu'entre les deux, il y ait un rapport qui soit horizontal, qui soit égalitaire.
Et cette transmission est également à double sens, puisque le grand-père, bon, il y gagne aussi de son côté. Non seulement il va passer du temps avec sa petite-fille, mais en plus il raconte cette petite musique qu'a sa petite-fille dans sa façon de parler. Donc on ne va pas dévoiler ce secret, mais finalement on peut se demander qui enrichit le plus l'autre dans cette relation.
Et Henri se pose exactement cette question. Plus exactement, il se félicite de voir que grâce à Mona... il est encore et toujours un jeune homme, hein, un jeune homme de 80 ans, mais qui continue d'apprendre. La première des leçons auprès de Botticelli, la première des leçons de vie, des leçons existentielles, c'est...
Le premier tableau, effectivement.
Voilà. Oui, la première fresque, c'est d'apprendre à recevoir. Et Henri est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui sait encore, à 80 printemps, recevoir. Et c'est vrai que sa petite fille lui donne beaucoup.
Il dit dans ce livre, à travers votre plume, « Si seulement nous pouvions rembobiner le fil de notre existence et y refaire tout le film de son langage, le premier mot, la première phrase, la première occurrence vocale de « mort », de « beau », de « je t'aime » ou de « qui plus est », ces premières fois lexicales, les vôtres en tout cas, vous en avez souvenir, Thomas Fischer ?
Oui, oui, je me rappelle avoir un vocabulaire un peu évolué tôt pour certaines choses, mais être très en retard sur d'autres. Ce qui est amusant, c'est de se rendre compte à quel point on comprend certains mots très tard dans sa vie. Par exemple, j'ai appris que roboratif voulait dire qui galvanise, qui fait du bien, passé 20 ans, vous voyez. Donc, voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples. Donc, il y avait des choses où, en effet, j'étais en avance, puis d'autres, j'étais très, très en retard. Et je le suis encore aujourd'hui. Il y a, à mon avis, plein de mots que j'utilise encore mal. Par exemple, vous voyez, patachon, contrairement à ce qu'on croit, ça ne veut pas du tout dire qu'on est comme une espèce de patapouf. Ça veut dire tout le contraire, ça veut dire qu'on fait la fête. D'accord. Patachon, ça veut dire faire la fête. Quelqu'un qui fait la fête.
On a parlé de la Joconde tout à l'heure. C'était un tableau qu'on attendait de retrouver dans ce livre en sachant qu'on allait en voir 52. Mais il y a d'autres tableaux plus inattendus peut-être, avec des grands noms de la peinture, mais pas forcément les toiles les plus connues de ces auteurs. Je pense à Vermeer, par exemple, sur votre couverture. C'est peut-être un choix d'édition. Figure le tableau La jeune fille à la perle, mais pourtant, c'en est un autre, celui que vous avez cité tout à l'heure.
Oui, c'est l'astronome qui figure. Le Vermeer sur la couverture, La jeune fille à la perle, il faut lire le dernier paragraphe pour comprendre pourquoi il y est. C'est un bon test pour savoir si les gens sont allés jusqu'au bout. Non, c'est ça, il fallait de temps en temps, avec des noms très célèbres, prendre un peu un contre-pied. Vous avez cité Vermeer, je citerai volontiers Goya, le Goya du Louvre très connu, cette belle Madone en pied très, très grande. Et bah, précisément, moi j'ai choisi la nature morte de Goya de 1808 qui est fascinante et qui va permettre de donner un autre aspect d'un artiste fameux.
Mais La jeune fille à la perle, elle n'y est pas dans les rencontres au musée, notamment parce qu'elle n'est pas dans un musée français.
Absolument. Aussi,
vous avez dû choisir vos tableaux en fonction de ça.
C'est ça. Il y avait une unité de lieu à trouver pour justement entretenir le climat tragique de la cécité possible qui pourrait emporter Mona. Et cette unité de lieu, c'est Paris, à travers le Louvre, Orsay et Pompidou. Mais j'espère qu'on voyagera quand même beaucoup à travers ces musées.
Et on voyage notamment aux États-Unis grâce à la plume de Basquiat.
Il s'agissait d'une grosse tête, ou plutôt de deux. Car la figure principale, complètement hallucinée, disproportionnée de trois quarts, se superposait à une autre, de profil, obstruée et reléguée à l'arrière-plan. Cette double effigie venait trouer le grand badigeon de noir, à peu près rectangulaire mais grossier, qui recouvrait l'ensemble du papier à l'exception des bords restés vierges. Elle surgissait au cœur de l'obscurité sans être complètement au milieu, mais plutôt légèrement décentrée sur la gauche et vers le bas. On aurait pu qualifier le dessin d'extraordinairement nerveux et enfantin à la fois. Les lignes étaient hachées, brisées et dépourvues de la moindre fioriture. La tête principale se caractérisait par son regard asymétrique, où le sclère flamboyait de jaune et les pupilles se dilataient. Elle avait des cheveux en brosse, noirs au centre, verts sur les côtés, surgissant d'un crénelage saignant le sommet du crâne. La figure se trouvait divisée en plusieurs parties, en particulier dans la région supérieure où avaient été tracées des séparations nettes entre les deux hémisphères du front d'une part et d'autre part entre ce front et la région orbitraire. Les zones colorées, le jaune des yeux cerné de rouge, du bleu pour l'essentiel du visage, du gris, du vert et du rouge pour le front et les joues, étaient un gris bouilli dont on voyait la course du crayon. Il y avait aussi un grand nez pointu et un chaos à son aval, à savoir une grosse masse sombre et indistincte qui descendait jusqu'à la bouche, laquelle était ouverte souriante, barrée de deux grands crocs.
Des passages comme celui-ci, Thomas Schlesser, il y en a dans chacun des chapitres. Vous décrivez chaque fois en italique ses œuvres visuellement avant d'en analyser le contenu, d'analyser ce qu'elles représentent. Alors là, on vous imagine en écrivant ce livre, au musée, devant tous ces tableaux avec un calepin à la manière d'un étudiant, mais qui ne dessinerait pas cette fois, qui aurait les yeux plissés pour retranscrire le moindre détail. C'est comme ça que ça s'est passé ?
À peu près, c'était...
Vous n'avez pas fait ça de tête, je
suppose. Non. C'était à la fois un immense plaisir et un enfer. Bon, j'ai mis 10 ans à écrire le livre, donc ça, j'avais quand même le temps devant moi. Mais l'enjeu, en effet, c'était d'arriver sans recours, sans que le lecteur ait besoin du recours à l'image, c'était d'arriver à décrire les tableaux, les photographies, les sculptures pour qu'elles surgissent de manière hallucinatoire dans l'esprit. Je ne dis pas que j'y suis parvenu, hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'était l'ambition littéraire. C'était même une ambition littéraire qui, chez moi, était dictée par une petite folie, celle que de telles œuvres soient accessibles à des non-voyants ou à des malvoyants par la magie des mots.
Est-ce que c'est difficile de mettre en mots quelque chose qui se ressent ?
C'est bien sûr que c'est très difficile, puisque c'est faire de quelque chose qui est visible quelque chose qui devient lisible. Bien sûr que c'est difficile, mais ça, c'est...
Avec le plus d'objectivité possible, je suppose.
Oui, et avec aussi le problème de ce qu'on présuppose être connu, par exemple en termes de vocabulaire, ou inconnu. Si je dis sinciput, par exemple, pour désigner une région de la tête, est-ce que c'est connu du lecteur ou non ? Voyez ? Donc il faut jongler un peu avec ces contraintes. Mais je dois vous dire que, in fine, j'adore ces passages que j'appelle des ekphrasis et qui sont un peu comme des poèmes en prose. Enfin, je dis j'adore ces passages, ça fait un peu l'auteur qui se regarde le nombril.
Comment vous appelez ça ?
Des ekphrasis, en fait, c'est en grec ancien, ça veut dire la description d'une œuvre et qui est tellement sensible qu'on finit par la voir jaillir, en fait. Ekphrasis. On peut dire également hypotypose. Voilà, deux jolis mots de vocabulaire.
Et ben, on apprend des choses. Merci Henri.
Merci Henri, oui.
Vous parliez à l'instant de cette volonté de rendre accessibles des œuvres à quelqu'un qui perdrait la vue. Est-ce que vous trouvez que dans les musées, justement, c'est fait, ça.
C'est le plus grand enjeu d'accessibilité. C'est très difficile. Ça peut passer par plein de choses, évidemment par les autres sens, mais aussi par le récit, hein, le langage. Raconter des histoires à partir des œuvres. L'histoire de l'art, ce sont des histoires, c'est de l'histoire. Donc il y a plein de manières de faire. Maintenant, naturellement, c'est pas tous les jours d'une simplicité enfantine. Ce que je peux dire, c'est que de travailler comme ça pour des non-voyants, pour des malvoyants, c'est travailler en fait pour tout le monde et c'est travailler avec eux.
Alors, on approche tout doucement vers la fin de cette émission. Thomas Schlesser, une dernière question peut-être. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre première fois au musée ?
Ma première fois au musée, ma première fois marquante, c'était devant un Gustave Courbet. Mais pour vous dire vraiment la première fois dont je me souvienne, c'est au Louvre et où je me cache derrière un sarcophage égyptien et je me fais sacrément enguirlander par un gardien.
Vous êtes caché derrière un sarcophage égyptien ?
Ouais, j'étais avec le fils de mon beau-père, Mathieu, et on jouait au Louvre dans la section égyptienne. C'est un très beau souvenir, mais évidemment, je ne le recommande pas aux familles avec enfants, encore que...
Merci beaucoup Thomas Schlesser d'avoir répondu à notre invitation. Les yeux de Mona, c'est votre nouveau roman paru chez Albin Michel et disponible bientôt dans combien de langues maintenant ?
33 langues, plus de 60 pays. Ouais.
Et en braille.
Et en braille d'ores et déjà, oui.
De vive voix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Laura Pinto et Cécile Lavolo. Demain, plongée dans le premier roman graphique de Laurane Safou, autrice afroféministe qui met dans les mains des lecteurs et des lectrices des histoires qui leur ressemblent et qui fait une place dans le paysage littéraire français aux récits de sororité dans toute leur complexité. N'hésitez pas à écouter cette émission en podcast sur le site rfi.fr ou sur l'application Pure Radio. On se retrouve demain, même heure, sur RFI.